Chapitre 10. Lorsque l'intégration devient convergence supérieure. Lorsqu'une première matrice intégrative durable existe, l'architecture atteint un seuil où l'intégration elle-même ne suffit plus. Plusieurs niveaux peuvent déjà tenir ensemble, mais une étape supplémentaire devient nécessaire. Ils doivent désormais converger vers une cohérence plus haute, sans perdre leur densité propre. C'est ici qu'apparaît la convergence supérieure. Intégrer signifie maintenir ensemble. Converger signifie orienter plusieurs cohérences vers un même niveau sans les appauvrir. Cette nuance est essentielle, car une architecture réellement mature ne cherche pas seulement à relier. Elle cherche à faire apparaître une cohérence supérieure à partir de ce qui est déjà relié. Le premier terme qui ouvre cette séquence est l'axe de synthèse stable. Cet axe ne remplace pas les axes précédents. Il intervient lorsque plusieurs lignes déjà stabilisées doivent produire une cohérence plus haute. La synthèse n'est pas ici une réduction. Elle désigne une recomposition capable de préserver les distinctions, tout en faisant apparaître un niveau supérieur de lisibilité. L'axe de synthèse stable maintient cette recomposition sans perte de fond. À partir de cet axe, apparaît la présence de convergence majeure. Cette présence ne coordonne plus seulement plusieurs champs, elle les attire vers un point commun, sans contrainte. Elle agit comme une cohérence silencieuse, capable de rendre compatibles plusieurs dynamiques déjà mûre. Elle devient majeure parce qu'elle soutient une convergence de haut niveau. Cette présence permet alors l'apparition d'une cohésion nouvelle, la cohésion synthétique. La cohésion synthétique diffère de la cohésion intégrative. Elle ne se contente pas de maintenir plusieurs niveaux ensemble. Elle produit une unité enrichie à partir d'eux. Autrement dit, l'unité ne précède plus seulement les éléments. Elle apparaît aussi à travers leur synthèse. Cette cohésion demande alors une fonction particulière, la fonction de synthèse structurée. Cette fonction ne juxtapose pas. Elle recompose. Elle prend plusieurs éléments déjà organisés et leur donne une cohérence de niveau supérieur. C'est une fonction délicate, elle doit produire davantage sans effacer ce qui existe déjà. Lorsque cette fonction agit correctement, apparaît le centre de convergence durable. Ce centre reçoit plusieurs lignes de cohérence sans surcharge. Il devient le lieu où plusieurs synthèses peuvent demeurer compatibles dans le temps. La durabilité est ici essentielle, une convergence ponctuelle ne suffit pas. Il faut une convergence stable. Mais toute convergence durable exige un niveau interne, encore plus fin, le noyau de convergence stable. Ce noyau désigne le point où plusieurs axes peuvent réellement se rejoindre, sans compression. Car converger ne signifie jamais écraser. Le noyau de convergence stable garantit que les distinctions subsistent jusque dans le rapprochement. À partir de ce noyau, apparaît la fonction de synthèse directrice. Cette fonction ajoute à la synthèse une orientation. Il ne suffit plus que plusieurs cohérences soient réunies. Il faut qu'elles soient dirigées vers une continuité claire. La synthèse devient alors directrice. Puis se forme le champ de cohérence convergente. Ce champ désigne un espace où plusieurs cohérences déjà élevées peuvent coexister dans une même stabilité supérieure. Il ne s'agit plus simplement d'un champ cohérent, il s'agit d'un champ où plusieurs cohérences distinctes deviennent compatibles à un niveau plus élevé. Cela conduit naturellement à l'ordre matriciel de synthèse. La synthèse cesse ici d'être une opération ponctuelle. Elle devient matrice. Autrement dit, elle peut désormais être reproduite comme principe. Enfin, cette séquence se referme sur « première assise complète de convergence supérieure ». Ce terme clôt le premier cycle. Il signifie qu'un ensemble de 100 termes n'est plus simplement un lexique ordonné ou une série de concepts alignés. Il devient une base complète capable de soutenir la suite. À ce seuil, le premier cycle n'est plus seulement achevé, il devient transmissible comme fond stable. Partie 2. Déploiement supérieur des architectures. Chapitre 11. Lorsque la convergence devient base de second cycle. Après qu'une première assise complète de convergence supérieure a été atteinte, une architecture ne recommence pas simplement un nouveau cycle. Elle entre dans un second mouvement où ce qui a déjà été synthétisé devient capable de servir de base à une nouvelle montée. Ce point est essentiel. Le second cycle ne constitue pas une répétition. Il constitue une reprise à un niveau plus élevé. Ce qui était jusque-là convergence devient désormais point de départ. Le premier terme qui ouvre cette nouvelle séquence est l'axe de continuité convergente. Jusqu'ici, plusieurs axes permettaient le maintien, la direction, la synthèse ou l'intégration. Mais ici, l'axe reçoit une responsabilité nouvelle. Faire tenir ensemble plusieurs continuités déjà stabilisées afin qu'elles puissent tendre vers une cohérence plus haute. La continuité ne se contente plus de durer, elle devient convergente. Cela signifie qu'elle porte déjà une orientation interne vers une unité supérieure. Cet axe devient indispensable dès qu'une structure possède plusieurs lignes de continuité suffisamment mûres pour ne plus pouvoir rester parallèle. À partir de cet axe, apparaît la présence de cohérence supérieure élargie. Cette présence n'est plus simplement une présence de cohésion ou de gouvernance. Elle agit sur plusieurs champs déjà élevés. Elle maintient plusieurs zones dans une même qualité de cohérence, sans surcharge. Ce terme est important. Élargi signifie ici que la cohérence ne dépend plus d'un seul centre local. Elle devient présente à travers plusieurs zones simultanément. Cette présence permet alors l'apparition de la fonction de convergence structurée. Converger ne suffit pas. Il faut que cette convergence soit structurée, car sans structure, plusieurs lignes peuvent se rapprocher sans produire de véritable unité. La fonction de convergence structurée organise le rapprochement. Elle garde les distinctions tout en rendant possible une cohérence commune. Elle agit comme un principe d'architecture fine. Elle relie sans écraser. Lorsque cette fonction existe, un centre nouveau devient nécessaire, le centre de cohésion matricielle élargi. Jusqu'ici, plusieurs centres existaient déjà. Centre de direction, centre de cohésion, centre de convergence. Mais ici, le centre devient matriciel. Cela signifie qu'il ne maintient pas seulement, il rend possible plusieurs développements à partir de sa cohérence. Et il devient élargi parce qu'il doit soutenir plusieurs matrices déjà actives. Le centre n'est plus local. Il porte plusieurs dynamiques en même temps. Cette densité conduit naturellement à la première base de convergence architecturale étendue. Ce terme marque l'entrée réelle dans le second cycle, car la convergence cesse ici d'être simplement un aboutissement du premier cycle. Elle devient fondation nouvelle. Autrement dit, ce qui était sommet devient base. Mais toute base nouvelle exige immédiatement un point d'intérieur capable de soutenir cette extension. Apparaît alors le noyau de convergence opérative. Le noyau ne maintient plus seulement la cohérence. Il permet désormais à la convergence d'agir. C'est une mutation importante. La convergence devient opérative. Elle produit des effets sans perdre sa stabilité. À partir de ce noyau apparaît la fonction distributive de cohérence supérieure. La cohérence supérieure ne peut rester concentrée. Elle doit pouvoir être distribuée. Distribuer ici signifie faire parvenir une même qualité de cohérence à plusieurs zones, sans affaiblissement. Cette fonction devient indispensable dès qu'une architecture élargie apparaît, puis se forme le champ de convergence active. Le champ n'est plus simplement stable, il devient actif. Cela signifie que plusieurs convergences peuvent coexister dans le mouvement sans collision. Le champ devient ici un espace vivant de convergence. Cette activité ouvre alors l'ordre de cohésion élargi. La cohésion n'agit plus seulement pour protéger l'unité. Elle porte désormais plusieurs ensembles, déjà convergents. Elle devient plus vaste, sans devenir rigide. Enfin, cette première séquence du second cycle se referme sur la première matrice opérative de second cycle. Ce terme est décisif. Il signifie que le second cycle possède désormais sa première matrice propre. Autrement dit, une nouvelle architecture peut commencer sans perdre ce qui a été acquis. Chapitre 12. Lorsque la convergence devient régulation supérieure, dès qu'un second cycle possède sa première matrice opérative, une exigence nouvelle apparaît. La convergence ne peut plus seulement croître. Elle doit désormais être tenue intérieurement par une régulation capable d'accompagner son élargissement. Cette étape est essentielle, car une convergence élevée, si elle n'est pas régulée, peut produire une densité qui finit par déséquilibrer ce qu'elle cherche à unir. La régulation ne vient donc pas corriger après coup. Elle apparaît comme condition silencieuse de continuité. Le premier terme qui ouvre cette séquence est l'axe de régulation convergente. Cet axe ne remplace pas l'axe de continuité convergente établi précédemment. Il agit à l'intérieur même de cette continuité. Il permet que plusieurs lignes convergentes, déjà actives, restent juste dans leur progression. Réguler signifie ici empêcher qu'une convergence élevée produise une tension invisible. Cet axe devient donc une ligne de maintien intérieur. À partir de cet axe apparaît la présence de maintien multimatriciel. Ce terme marque un seuil important. Jusqu'ici, une présence pouvait soutenir plusieurs champs. Ici, elle doit soutenir plusieurs matrices simultanément. Cela signifie que plusieurs structures déjà génératives demeurent compatibles sans surcharge. Cette présence n'intervient pas comme correction. Elle agit comme stabilité silencieuse entre plusieurs matrices actives. Cette présence permet alors l'apparition de la fonction d'alignement convergent supérieur. Lorsque plusieurs convergences existent, elles peuvent rester cohérentes sans être encore réellement alignées. L'alignement supérieur intervient précisément ici. Il oriente plusieurs convergences vers une cohérence commune plus haute. Cette fonction n'efface pas les différences. Elle garantit que les différences ne deviennent pas dispersion. Elle agit comme une discipline intérieure de la convergence. Lorsque cet alignement existe, apparaît le centre de cohérence opérative étendu. Ce centre ne maintient plus seulement la cohérence locale. Il agit sur une portée plus vaste. Il devient capable de soutenir plusieurs opérations convergentes déjà élevées. Ce centre marque un élargissement réel du second cycle. L'opératif n'est plus limité à une seule matrice. Cette densité conduit alors à la première base de régulation supérieure du second cycle. Ce terme fixe une nouvelle assise, la régulation n'est plus simplement un ajustement. Elle devient base stable. Autrement dit, ce qui maintient silencieusement devient désormais fondation de progression. Mais toute base régulatrice exige un point intérieur plus dense. Le noyau de cohésion régulatrice. Ce noyau relie directement cohésion et régulation. Il ne s'agit plus de deux fonctions distinctes. À ce niveau, maintenir l'unité et ajuster silencieusement deviennent un même mouvement. Ce noyau protège l'ensemble contre les écarts subtils. À partir de ce noyau apparaît la fonction distributive de régulation supérieure. La régulation ne peut rester concentrée. Elle doit être distribuée. Distribuer ici signifie faire parvenir une même qualité d'ajustement à plusieurs zones sans perte de cohérence. Cette fonction devient essentielle dès qu'un second cycle commence à porter plusieurs zones actives, puis se forme le champ de stabilité convergente étendue. Le champ devient ici plus large. Plusieurs convergences déjà stabilisées peuvent maintenant durer sur une portée supérieure. La stabilité cesse d'être locale. Elle devient champ durable. Cette extension conduit à l'ordre matriciel de régulation active. La régulation cesse ici d'être seulement un maintien discret. Elle devient matrice. Autrement dit, elle peut désormais être reproduite comme principe structurant. Enfin, cette séquence se referme sur la première matrice de cohésion régulatrice du second cycle. Ce terme est très important. Il signifie que cohésion et régulation ne sont plus simplement liées. Elles possèdent maintenant leur matrice commune. Le second cycle acquiert ici sa première stabilité intérieure, profonde. Chapitre 13. Lorsque la régulation devient stabilité convergente élargie. Lorsqu'une première matrice de cohésion régulatrice existe, une architecture franchit un seuil où la régulation ne se limite plus à maintenir l'équilibre intérieur, elle devient capable de soutenir une stabilité plus large, capable d'accompagner plusieurs convergences sans perte de densité. Ce passage est important, car une régulation mature ne reste pas enfermée dans le maintien local. Elle devient progressivement une forme de stabilité capable de porter l'élargissement. Le premier terme qui ouvre cette séquence est l'axe de cohérence régulatrice élargie. Cet axe prolonge le travail de régulation établi auparavant. Mais ici, il ne se contente plus de corriger silencieusement ou d'absorber les écarts. Il permet qu'une cohérence déjà régulée puisse se maintenir à plus grande échelle. Autrement dit, la régulation devient axe de prolongement stable. Cet axe apparaît lorsque plusieurs champs déjà harmonisés doivent demeurer compatibles dans un espace plus vaste. À partir de cet axe apparaît la présence de stabilité multi-opérative. Cette présence marque un seuil nouveau. La stabilité ne concerne plus une seule opération ou un seul champ. Elle agit dans plusieurs opérations simultanément. Mais cette multiplicité n'introduit pas de surcharge. Au contraire, la présence maintient silencieusement plusieurs activités sans que l'ensemble perde sa cohérence. Cette présence permet alors l'apparition de la fonction de convergence régulée supérieure. La convergence existe déjà, mais ici, elle ne peut plus croître sans être tenue de l'intérieur. Cette fonction organise une convergence déjà élevée sous un maintien régulé. Elle garantit que plusieurs lignes convergentes restent compatibles sans rigidification. Elle agit comme une discipline interne du rapprochement. Lorsque cette fonction existe, apparaît le centre de cohésion active élargie. Ce centre ne se limite plus à maintenir une cohésion locale. Il agit dans plusieurs zones simultanément. La cohésion devient active parce qu'elle soutient plusieurs champs en mouvement. Et elle devient élargie parce qu'elle ne dépend plus d'un seul point de référence restreint. Ce centre marque une maturité croissante. Plusieurs dynamiques peuvent désormais rester reliées sans tension croissante. Cette densité conduit à la première base de stabilité convergente supérieure. Ce terme fixe une nouvelle assise. Stabilité et convergence ne sont plus séparés. La convergence n'est plus seulement dirigée, elle devient elle-même stable à un niveau supérieur. Mais toute base nouvelle exige un point intérieur plus fin, le noyau de stabilité distributive convergente. Ce noyau unit deux réalités, la stabilité et la distribution. Jusqu'ici, la stabilité pouvait être maintenue localement. Ici, elle devient capable d'être répartie. Distribuer la stabilité signifie faire parvenir une même qualité de maintien à plusieurs zones sans dilution. Ce noyau protège cette capacité. À partir de lui, apparaît la fonction de cohésion opérative supérieure. Cette fonction intervient lorsque plusieurs opérations, déjà complexes, doivent rester unifiées sans surcharge. La cohésion ne protège plus seulement. Elle agit sous activité élevée. Elle devient opérative parce qu'elle accompagne directement le fonctionnement. Puis se forme le champ de régulation active élargi. Le champ devient ici plus vaste. La régulation agit sur une portée étendue, sans fatigue structurelle. Ce champ montre qu'un second cycle possède désormais une régulation réellement mature. Cette extension conduit alors à l'ordre de convergence matricielle supérieure. La convergence cesse ici d'être seulement un résultat structuré. Elle devient matrice. Autrement dit, elle peut désormais être reproduite comme principe d'architecture. Enfin, cette séquence se referme sur la première matrice distributive de stabilité convergente. Ce terme est décisif. Il signifie que stabilité et convergence peuvent désormais être diffusées ensemble, sans perte de cohérence. Le second cycle gagne ici une capacité réelle de transmission stable.